Chapitre 2. Surprise au milieu de son sommeil par la voix de son frère, Graziella n'avait eu ni la pensée ni le temps de s'arranger une toilette de nuit. Elle s'était élancée pieds nus à la fenêtre, dans le désordre où elle dormait sur son lit. De ses longs cheveux noirs, la moitié tombait sur une de ses joues, l'autre moitié se tordait autour de son cou, puis emportée de l'autre côté de son épaule par le vent qui soufflait avec force, frappait le volet entr'ouvert et revenait lui fouetter le visage comme l'aile d'un corbeau battu du vent. Du revers de ses deux mains, la jeune fille se frottait les yeux en élevant ses coudes et en dilatant ses épaules avec ce premier geste d'un enfant qui se réveille et qui veut chasser le sommeil. Sa chemise nouée autour du cou ne laissait apercevoir qu'une taille élevée et mince, où se modelaient à peine sous la toile les premières ondulations de la jeunesse. Ses yeux, ovales et grands, étaient de cette couleur indécise entre le noir foncé et le bleu de mer, qui adoucit le rayonnement par l'humidité du regard, et qui mêle à proportions égales dans les yeux de femme la tendresse de l'âme avec l'énergie de la passion, teinte céleste que les yeux des femmes de l'Asie et de l'Italie empruntent au feu brûlant de leurs jours de flamme et à l'azur serein de leur ciel, de leur mer et de leur nuit. Les joues étaient pleines, arrondies d'un contour ferme, mais d'un teint un peu pâle et un peu bruni par le climat, non de cette pâleur maladive du nord, mais de cette blancheur saine du midi qui ressemble à la couleur du marbre exposé depuis des siècles à l'air et au flot. La bouche, dont les lèvres étaient plus ouvertes et plus épaisses que celles des femmes de nos climats, avait les plis de la candeur et de la bonté. Les dents courtes mais éclatantes brillaient aux lueurs flottantes de la torche comme des écailles de nacre au bord de la mer sous la moire de l'eau frappée du soleil. Tandis qu'elle parlait à son petit frère, ses paroles vives, un peu âpres et accentuées, dont la moitié était emportée par la brise, résonnaient comme une musique à nos oreilles. Sa physionomie, aussi mobile que les lueurs de la torche qui l'éclairait, passa en une minute de la surprise à l'effroi, de l'effroi à la gaieté, de la tendresse au rire. Puis elle nous aperçut derrière le tronc du gros figuier. Elle se retira confuse de la fenêtre, sa main abandonna le volet qui battit librement la muraille. Elle ne prit que le temps d'éveiller sa grand-mère et de s'habiller à demi. Elle vint nous ouvrir la porte sous les arcades et embrasser tout ému son grand-père et son frère. La vieille mère parut bientôt, tenant à la main une lampe de terre rouge, qui éclairait son visage maigre et pâle et ses cheveux aussi blancs que les écheveaux de laine qui floconnaient sur la table autour de sa quenouille. Elle baisa la main de son mari et le front de l'enfant. Tout le récit que contiennent ces lignes fut échangé en quelques mots et en quelques gestes entre les membres de cette pauvre famille. Nous n'entendions pas tout, nous nous tenions un peu à l'écart, pour ne pas gêner les penchements de cœur de nos hôtes. Ils étaient pauvres, nous étions étrangers, nous leur devions le respect. Notre attitude, réservée à la dernière place et près de la porte, le leur témoignait silencieusement. Graziella jetait de temps en temps un regard étonné, comme du fond d'un rêve, sur nous. Quand le père eut fini de raconter, la vieille mère tomba à genoux près du foyer. Graziella, montant sur la terrasse, rapporta une branche de romarin et quelques fleurs d'oranger à larges étoiles blanches. Elle prit une chaise. Elle attacha le bouquet avec de longues épingles tirées de ses cheveux devant une petite statue enfumée de la Vierge placée au-dessus de la porte devant laquelle brûlait une lampe. Nous comprîmes que c'était une action de grâce à sa divine protectrice pour avoir sauvé son grand-père et son frère, et nous prîmes notre part de sa reconnaissance. L'intérieur de la maison était aussi nu et aussi semblable au rocher que le dehors. Il n'y avait que les murs sans enduit, blanchis seulement d'un peu de chaux. Les lézards, réveillés par la lueur, glissaient et bruissaient dans les interstices des pierres et sous les feuilles de fougères qui servaient de lit aux enfants. Les nids d'hirondelles, dont on voyait sortir les petites têtes noires et briller les yeux inquiets, étaient suspendus aux solives couvertes d'écorce qui formaient le toit. Graziella et sa grand-mère couchaient ensemble dans la seconde chambre sur un lit unique recouvert de morceaux de voile. Des paniers de fruits et un bas de mulet jonchaient le plancher. Le pêcheur se tourna vers nous avec une espèce de honte en nous montrant de sa main la pauvreté de sa demeure. Puis il nous conduisit sur la terrasse, place d'honneur dans l'Orient et dans le Midi de l'Italie. Aidé de l'enfant et de Graziella, il fit une espèce de hangar en appuyant une des extrémités de nos rames sur le mur du parquet de la terrasse et l'autre extrémité sur le plancher. Il couvrit cet abri d'une douzaine de fagots de châtaigniers fraîchement coupés dans la montagne. Il étendit quelques bottes de fougères sous ce hangar. Il nous apporta deux morceaux de pain, de l'eau fraîche et des figues, et il nous invita à dormir. Les fatigues et les émotions du jour nous rendirent le sommeil soudain et profond. Quand nous nous réveillâmes, les hirondelles criaient déjà autour de notre couche en rasant la terrasse pour y dérober les miettes de notre souper. Et le soleil, déjà haut dans le ciel, échauffait comme un four les fagots de feuilles qui nous servaient de toit. Nous restâmes longtemps étendus sur notre fougère, dans cet état de demi-sommeil qui laisse l'homme moral sentir et penser avant que l'homme des sens ait le courage de se lever et d'agir. Nous échangions quelques paroles inarticulées qu'interrompaient de longs silences et qui retombaient dans les rêves. La pêche de la veille, la barque balancée sous nos pieds, la mer furieuse, les rochers inaccessibles, la figure de Graziella entre deux volets, aux clartés de la résine, toutes ces images se croisaient, se brouillaient, se confondaient en nous. Nous fûmes tirés de cette somnolence par les sanglots et les reproches de la vieille grand-mère qui parlait à son mari dans la maison. La cheminée, dont l'ouverture perçait la terrasse, apportait la voix et quelques paroles jusqu'à nous. La pauvre femme se lamentait sur la perte des jarres, de l'ancre, des cordages presque neufs, et surtout des deux belles voiles filées par elle, tissues de son propre chanvre, et que nous avions eu la barbarie de jeter à la mer pour sauver nos vies. « Mais qu'avais-tu à faire, disait-elle au vieillard atterré et muet, de prendre ces deux étrangers, ces deux Français avec toi ? Ne savais-tu pas que ce sont des païens, Pagani, et qu'ils portent le malheur et l'impiété avec eux? Les saints t'ont puni, ils nous ont ravi notre richesse. Remercie-les encore de ce qu'ils nous ont pas ravi notre âme. » Le pauvre homme ne savait que répondre. Mais Graziella, avec l'autorité et l'impatience d'une enfant à qui sa grand-mère permettait tout, se révolta contre l'injustice de ses reproches et prenant le parti du vieillard. « Mais qu'est-ce qui vous a dit que ces étrangers sont des païens ? » répondit-elle à sa grand-mère. « Est-ce que les païens ont un air si compatissant pour les pauvres gens ? Est-ce que les païens font le signe de la croix comme nous devant l'image des saints ? Eh bien, je vous dis qu'hier, quand vous êtes tombés à genoux pour remercier Dieu, et quand j'ai attaché le bouquet à l'image de la Madone, je les ai vus baisser la tête, comme s'ils priaient, et faire le signe de la croix sur leur poitrine, et que même j'ai vu une larme briller dans les yeux du plus jeune et tomber sur sa main. C'était une goutte de l'eau de mer qui tombait de ses cheveux, reprit aigrement la vieille femme. Et moi je vous dis que c'était une larme, répliqua avec colère Graziella. Le vent qui soufflait avait bien eu le temps de sécher leurs cheveux depuis le rivage jusqu'au sommet de la côte. Mais le vent ne sèche pas le cœur. Eh bien, je vous le répète, ils avaient de l'eau dans les yeux. Nous comprîmes que nous avions une protectrice toute puissante dans la maison, car la grand-mère ne répondit pas et ne murmura plus. Nous nous hâtâmes de descendre pour remercier la pauvre famille de l'hospitalité que nous avions reçue. Nous trouvâmes le pêcheur, la vieille mère, Beppo, Graziella, et jusqu'aux petits-enfants qui se disposaient à descendre vers la côte pour visiter la barque abandonnée la veille et voir si elle était suffisamment amarrée contre le gros temps, car la tempête continuait encore. Nous descendîmes avec eux, le front baissé, timides comme des hôtes qui ont été l'occasion d'un malheur dans une famille, et qui ne sont pas sûrs des sentiments qu'on y a pour eux. Le pêcheur et sa femme nous précédaient de quelques marches. Graziella, tenant un de ses petits frères par la main et portant l'autre sur le bras, venait après. Nous suivions derrière en silence. Au dernier détour d'une des rampes, d'où l'on voit les écueils que l'arête d'un rocher nous empêchait d'apercevoir encore, nous entendîmes un cri de douleur s'échapper à la fois de la bouche du père et de celle de sa femme. Nous les vîmes élever leurs bras nus au ciel, se tordre les mains comme dans les convulsions du désespoir, se frapper du poing le front et les yeux et s'arracher les touffes de cheveux blancs que le vent emportait en tournoyant contre les rochers. Graziella et les petits-enfants mêlèrent bientôt leurs voix à ces cris. Tous se précipitèrent comme des insensés en franchissant les derniers degrés de la rampe vers les écueils, s'avancèrent jusque dans les franges d'écume que les vagues immenses chassaient à terre et tombèrent sur la plage, les uns à genoux, les autres à la renverse, la vieille femme, le visage dans ses mains et la tête dans le sable humide. Nous contemplions cette scène de désespoir du haut du dernier petit promontoire, sans avoir la force d'avancer ni de reculer. La barque a amarré au rocher, mais qui n'avait point d'ancre à la poupe pour la contenir, avait été soulevée pendant la nuit par les lames et mise en pièces contre les points des écueils qui devaient la protéger. La moitié du pauvre esquif tenait encore par la corde au roc où nous l'avions fixé la veille. Il se débattait avec un bruit sinistre, comme des voix d'hommes en perdition qui s'éteignent dans un gémissement rauque et désespéré. Les autres parties de la coque, la poupe, le mât, les membrures, les planches peintes étaient semées çà et là sur la grève, semblables aux membres des cadavres déchirés par les loups après un combat. Quand nous arrivâmes sur la plage, le vieux pêcheur était occupé à courir d'un de ses débris à l'autre. Il les relevait, il les regardait d'un œil sec, puis il les laissait retomber à ses pieds pour aller plus loin. Graziella pleurait, assise à terre, la tête dans son tablier. Les enfants, leurs jambes nues dans la mer, couraient en criant après les débris des planches qu'il s'efforçait de diriger vers le rivage. Quant à la vieille femme, elle ne cessait de gémir et de parler en gémissant. Nous ne saisissions que des accents confus et des lambeaux de plainte qui déchiraient l'air et qui fendaient le cœur. « Oh, mère féroce, mère sourde, mère pire que les démons de l'enfer, mère sans cœur et sans honneur !» criait-elle avec des vocabulaires d'injures en montrant le poing fermé au flot. « Mais pourquoi ne nous as-tu pas pris nous-mêmes, nous tous, puisque tu nous as pris notre gagne-pain ? Tiens, tiens, prends-moi du bon morceau, puisque tu m'as prise tout entière. » Et en disant ces mots, elle se levait sur son séant, elle jetait avec des lambeaux de sa robe des touffes de ses cheveux dans la mer. Elle frappait la vague du geste, elle piétinait dans l'écume. Puis, passant alternativement de la colère à la plainte et des convulsions à l'attendrissement, elle se rasseyait dans le sable, appuyait son front dans ses mains et regardait en pleurant les planches disjointes battre l'écueil. « Pauvre Marc !» criait-elle, comme si ses débris eussent été les membres d'un être chéri à peine privé de sentiment. « Est-ce là le sort que nous te devons ? Mais ne devions-nous pas périr avec toi, périr ensemble, comme nous avions vécu ? Là, en morceaux, en débris, en poussière, criant, morte encore sur l'écueil où tu nous as appelés toute la nuit et où nous devions te secourir. Qu'est-ce que tu penses de nous ? Tu nous avais si bien servi, nous t'avons trahi, abandonné, perdu. Perdu là, si près de la maison, à portée de la voix de ton maître, jeté à la côte comme le cadavre d'un chien fidèle que la vague rejette au pied du maître qui l'a noyé. Puis ses larmes étouffaient sa voix. Puis elle reprenait une à une toute l'énumération des qualités de sa barque et tout l'argent qu'elle leur avait coûté et tous les souvenirs qui se rattachaient pour elle à ce pauvre débit flottant. « Était-ce pour cela, disait-elle, que nous l'avions fait si bien radouber et si bien peindre après la dernière pêche du thon ? Était-ce pour cela que mon pauvre fils, avant de mourir et de me laisser ses trois enfants, sans père ni mère, l'avait bâti, avec tant de soin et d'amour, presque tout entière, de ses propres mains ? Quand je venais prendre les paniers dans la cale, je reconnaissais les coups de sa hache dans le bois, et je les baisais en mémoire de lui. Ce sont les requins et les crabes de la mer qui les baiseront maintenant. Pendant les soirs d'hiver, il avait sculpté lui-même avec son couteau l'image de saint François sur une planche, et il l'avait fixée à la proue pour la protéger contre le mauvais temps. Oh, saint pitoyable ! Comment s'est-il montré reconnaissant ? Et qu'a-t-il fait de mon fils, de sa femme et de la barque qu'il nous avait laissée après lui pour gagner la vie de ses pauvres enfants ? Comment s'est-il protégé lui-même et où est-elle, son image jouée des flots ? Mère, mère, s'écria les enfants en ramassant sur la grève entre deux rochers un éclat du bateau laissé à sec par une lame. « Voilà le saint !» La pauvre femme oublia toute sa colère et tous ses blasphèmes, s'élança les pieds dans l'eau vers l'enfant, prit le morceau de planche sculpté par son fils et le colla sur ses lèvres en le couvrant de larmes. Puis elle alla se rasseoir et ne dit plus rien. Nous aidâmes Beppo et le vieillard à recueillir un à un tous les morceaux de la barque. Nous tirâmes la quille mutilée plus avant sur la plage. Nous fîmes un monceau de ces débris, dont quelques planches et les ferrures pouvaient servir encore à ces pauvres gens. Nous roulâmes par-dessus de grosses pierres afin que les vagues, si elles montaient, ne dispersassent pas ces chers restes de l'esquif. Et nous remontâmes tristes et bien loin derrière nos hôtes à la maison. L'absence de bateau et l'état de la mer ne nous permettaient pas de partir. Après avoir pris, les yeux baissés sans dire un mot, un morceau de pain et du lait de chèvre que Graziella nous apporta près de la fontaine sous le figuier, nous laissâmes la maison à son deuil, et nous allâmes nous promener dans la haute taille de vigne et sous les oliviers du plateau élevé de l'île. Nous nous parlions à peine, mon ami et moi, Mais nous avions la même pensée et nous prenions par instinct tous les sentiers qui tendaient à la pointe orientale de l'île et qui devaient nous mener à la ville prochaine de Procida. Quelques chevriers, quelques jeunes filles au costume grec que nous rencontrâmes portant des cruches d'huile sur leur tête, nous revirent plusieurs fois dans le vrai chemin. Nous arrivâmes enfin à la ville après une heure de marche. Voilà une triste aventure, me dit enfin mon ami. Il faut la changer en joie pour ces bonnes gens, lui répondis-je. J'y pensais, reprit-il en faisant sonner dans sa ceinture de cuir bon nombre de sequins d'or. Mais moi aussi, je n'ai que 5 ou 6 sequins dans ma bourse. Cependant, j'ai été de moitié dans le malheur, il faut que je sois de moitié aussi dans la réparation. Je suis le plus riche des deux, dit mon ami. J'ai un crédit chez un banquier de Naples. J'avancerai tout et nous réglerons nos comptes en France. En parlant ainsi, nous descendions légèrement les rues en pente de Procida. Nous arrivâmes bientôt sur la marine. C'est ainsi qu'on appelle la plage voisine de la rade ou du port, dans l'archipel et sur les côtes d'Italie. La plage était couverte de barques d'Ischia, de Procida et de Naples, que la tempête de la veille avait forcé de chercher un abri dans ses eaux. Les marins et les pêcheurs dormaient au soleil, au bruit des croissants des vagues ou causés par groupes assis sur le môle. À notre costume et au bonnet de laine rouge qui recouvrait nos cheveux, ils nous prirent pour de jeunes matelots de Toscane ou de Gênes, qu'un des briques qui porte l'huile ou le vin d'Ischia avait débarqué à Procida. Nous parcourûmes la marine en cherchant de l'œil une barque solide et bien gréée, qui put être facilement manœuvrée par 2 hommes et dont la proportion et les formes se rapprochassent le plus possible de celle que nous avions perdue. Nous n'eûmes pas de peine à la trouver. Elle appartenait à un riche pêcheur de l'île qui en possédait plusieurs autres. Celle-là n'en avait encore que quelques mois de service. Nous allâmes chez le propriétaire dont les enfants du port nous indiquèrent la maison. Cet homme était gai, sensible et bon. Il fut touché du récit que nous lui fîmes du désastre de la nuit et de la désolation de son pauvre compatriote Procida. Il n'en perdit pas une piastre sur le prix de son embarcation, mais il n'en exagéra point la valeur, et le marché fut conclu pour 32 sequins d'or que mon ami lui paya comptant. Moyennant cette somme, le bateau et un gréement tout neuf, voile, jarre, cordage, ancre de fer, tout fut à nous. Nous compléta même l'équipement en achetant dans une boutique du port 2 capotes de laine rousse, une pour le vieillard, l'autre pour l'enfant. Nous y joignîmes des filets de diverses espèces, des paniers à poissons et quelques ustensiles grossiers de ménage à l'usage des femmes. Nous convînmes avec le marchand de barque que nous y paierions le lendemain 3 sequins de plus si l'embarcation était conduite le jour même au point de la côte que nous lui désignâmes. Comme la bourrasque baissait et que la terre élevée de l'île abritait un peu de la mer du vent de ce côté, il s'y engagea et nous repartîmes par terre pour la maison d'Andrea. Nous fîmes la route lentement, nous asseyant sous tous les arbres à l'ombre de toutes les treilles, causant, rêvant, marchandant à toutes les jeunes Procitanes les paniers de figues, de nèfles, de raisins qu'elles portaient, et donnant aux heures le temps de couler. Quand, du haut d'un promontoire, nous aperçûmes notre embarcation qui se glissait furtivement sous l'ombre de la côte, nous pressâmes le pas pour arriver en même temps que les rameurs. On n'entendait ni pas ni voix dans la petite maison et dans la vigne qui l'entourait. Deux beaux pigeons, aux larges pattes emplumées, aux ailes blanches tigrées de noir, becquetant des grains de maïs sur le mur, en parapet de la terrasse, était le seul signe de vie qui anima la maison. Nous montâmes sans bruit sur le toit. Nous y trouvâmes la famille profondément endormie. Tous, excepté les enfants, dont les jolies têtes reposaient à côté l'une de l'autre sur le bras de Graziella, sommeillaient dans l'attitude de l'affaissement produit par la douleur. La vieille mère avait la tête sur ses genoux et son haleine assoupie semblait sangloter encore. Le père était étendu sur le dos, les bras en croix en plein soleil. Les hirondelles rasaient ses cheveux gris dans leur vol. Les mouches couvraient son front en sueur. Deux sillons creux et serpentant jusqu'à sa bouche attestaient que la force de l'homme s'était brisée en lui et qu'il s'était assoupi dans les larmes. Ce spectacle nous fendit le cœur. La pensée du bonheur que nous allions rendre à ces pauvres gens nous consola. Nous les éveillâmes. Nous jetâmes aux pieds de Graziella et de ses petits frères, sur le plancher du toit, les pains frais, le fromage, les salaisons, les raisins, les oranges, les figues dont nous nous étions chargés en route. La jeune fille et les enfants n'osaient se lever au milieu de cette pluie d'abondance qui tombait comme du ciel autour d'eux. Le père nous remerciait pour sa famille. La grand-mère regardait tout cela d'un œil terne. L'expression de sa physionomie se rapprochait plus de la colère que de l'indifférence. « Allô, Andrea, » dit mon ami au vieillard, « l'homme ne doit pas pleurer deux fois ce qu'il peut racheter avec du travail et du courage. Il y a des planches dans les forêts et des voiles dans le chanvre qui poussent. Il n'y a que la vie de l'homme que le chagrin use qui ne repousse pas. » Un jour de larmes consume plus de force qu'un an de travail. Descendez avec nous, avec votre femme et vos enfants. Nous sommes vos matelots. Nous vous aiderons à remonter ce soir dans la cour les débris de votre naufrage. Vous en ferez des clôtures, des lits, des tables, des meubles pour la famille. Cela vous fera plaisir un jour de dormir tranquille dans votre vieillesse au milieu de ces planches qui vous ont si longtemps bercé sur les flots. Qu'elle puisse seulement nous faire des cercueils, murmura doucement la grand-mère. Cependant, ils se levèrent et nous suivirent tous en descendant lentement les degrés de la côte. Mais on voyait que l'aspect de la mer et le son des lames leur faisaient mal. Je n'essaierai pas de décrire la surprise et la joie de ces pauvres gens quand, du haut du dernier palier de la rampe, ils aperçurent la belle embarcation neuve, brillante au soleil et tirée à sec sur le sable à côté des débris de l'ancienne, et que mon ami leur dit « Elle est à vous !» Ils tombèrent tous comme foudroyés de la même joie à genoux, chacun sur le degré où il se trouvait, pour remercier Dieu avant de trouver des paroles pour nous remercier nous-mêmes. Mais leur bonheur nous remerciait assez. Ils se relevèrent à la voix de mon ami qui les appelait. Ils coururent sur ses pas vers la barque. Ils en firent d'abord à distance et respectueusement le tour, comme s'ils eussent craint qu'elle n'eût quelque chose de fantastique et qu'elle ne s'évanouît comme un prodige. Puis ils s'en approchèrent de plus près, puis ils la touchèrent, en portant ensuite à leur front et à leurs lèvres la main qu'il avait touchée. Enfin, ils poussèrent des exclamations d'admiration et de joie, et se prenant les mains en chaîne depuis la vieille femme jusqu'aux petits enfants, ils dansèrent autour de la coque. Beppo fut le premier qui y monta. Debout sur le petit faux pont de la proue, il tirait un à un de la cale tout le gréement dont nous l'avions rempli. L'ancre, les cordages, les jarres à quatre anses, les belles voiles neuves, les paniers, les capotes aux larges manches. Il faisait sonner l'ancre, il élevait les rames au-dessus de sa tête, il dépliait la toile, il froissait entre ses doigts le rude duvet des manteaux, il montrait toutes ses richesses à son grand-père, à sa grand-mère, à sa sœur, avec des cris et des trépignements de bonheur. Le père, la mère, Graziella, pleuraient en regardant tour à tour la barque et nous. Les marins qui avaient amené l'embarcation, cachés derrière les rochers, pleuraient aussi. Tout le monde nous bénissait. Graziella, le front baissé et plus sérieuse dans sa reconnaissance, s'approcha de sa grand-mère et je l'entendis murmurer en nous montrant du doigt. Vous disiez que c'était des païens, et quand je vous disais, moi, que ce pouvait bien être plutôt des anges, qu'est-ce qui avait raison ? La vieille femme se jeta à nos pieds et nous demanda pardon de ses soupçons. Depuis cette heure, elle nous aima presque autant qu'elle aimait sa petite fille ou Beppo. Nous congédiâmes les marins de Procida après leur avoir payé les 3 sequins convenus. Nous nous chargeâmes chacun d'un des objets de gréement qui encombraient la cale. Nous rapportâmes à la maison, au lieu des débris de sa fortune, toutes ces richesses de l'heureuse famille. Le soir, après souper à la clarté de la lampe, Beppo détacha du chevet du lit de sa grand-mère le morceau de planche brisée où la figure de saint Antoine avait été sculptée par son père. Il l'écarrit avec une scie, il la nettoya avec son couteau, il la polit et la peignit à neuf. Il se proposait de l'incruster le lendemain sur l'extrémité intérieure de la proue afin qu'il y eût dans la nouvelle barque quelque chose de l'ancienne. C'est ainsi que les peuples de l'Antiquité, quand ils élevaient un temple sur l'emplacement d'un autre temple, avaient soin d'introduire dans la construction du nouvel édifice les matériaux, ou une colonne au moins, de l'ancien, afin qu'il y eût quelque chose de vieux et de sacré dans le moderne, et que le souvenir lui-même, fruste et grossier, eût son culte et son prestige, pour le cœur parmi les chefs-d'œuvre du sanctuaire nouveau. L'homme est partout l'homme. Sa nature sensible a toujours les mêmes instincts, qu'il s'agisse du Parthénon de Saint-Pierre de Rome ou d'une pauvre barque de pêcheur sur un écueil de Procida. Cette nuit fut peut-être la plus heureuse de toutes les nuits que la Providence eût destinée à cette maison depuis qu'elle est sortie du rocher jusqu'à ce qu'elle retombe en poussière. Nous dormîmes au coup de vent dans les oliviers, au bruit des lames sur la côte et aux lueurs rasantes de la lune sur notre terrasse. À notre réveil, le ciel était balayé comme un cristal poli, la mer foncée et tigrée d'écume, comme si l'eau eût sué de vitesse et de lassitude. Mais le vent, plus furieux, mugissait toujours. La poussière blanche que les vagues accumulaient sur la pointe du cap Misaine s'élevait encore plus haut que la veille. Elle noyait toute la côte de Cum dans un flux et un reflux de brume lumineuse qui ne cessait de monter et de retomber. On n'apercevait aucune voile sur le golfe de Gaète ni sur celui de Bahia. Les hirondelles de mer fouettaient l'écume de leurs ailes blanches. Seul oiseau qui est son élément dans la tempête et qui crie de joie pendant les naufrages, comme ces habitants maudits de la baie des Trépassés qui attendent leur proie des navires en perdition. Nous éprouvions, sans nous le dire, une joie secrète d'être ainsi emprisonnés par le gros temps dans la maison et dans la vigne du batelier. Cela nous donnait le temps de savourer notre situation et de jouir du bonheur de cette pauvre famille à laquelle nous nous attachions comme des enfants. Le vent et la grosse mer nous y retardent 9 jours entiers. Nous aurions désiré, moi surtout, que la tempête ne finisse jamais et qu'une nécessité involontaire et fatale nous fit passer les années où nous nous trouvions si captifs et si heureux. Nos journées s'écoulaient pourtant bien insensibles et bien uniformes. Rien ne prouve mieux combien peu de choses suffit au bonheur quand le cœur est jeune et jouit de tout. C'est ainsi que les aliments les plus simples soutiennent et renouvellent la vie du corps quand l'appétit les assaisonne et que les organes sont neufs et sains. Nous éveiller au cri des hirondelles qui effleuraient notre toit de feuilles sur la terrasse où nous avions dormi. Écouter la voix enfantine de Graziella qui chantait à demi-voix dans la vigne de peur de troubler le sommeil des deux étrangers. Descendre rapidement à la plage pour nous plonger dans la mer et nager quelques minutes dans une petite calanque dont le sable fin brillait à travers la transparence d'une eau profonde et où le mouvement et l'écume de la haute mer ne pénétraient pas. Remonter lentement à la maison en séchant et en réchauffant au soleil nos cheveux et nos épaules trempés par le bain. Déjeuner dans la vigne d'un morceau de pain et de fromage de buffle que la jeune fille nous apportait et rompait avec nous. Boire l'eau claire et rafraîchie de la source puisée par elle dans une petite jarre de terre oblongue qu'elle penchait en rougissant sur son bras pendant que nos lèvres se collaient à l'orifice. Aider ensuite la famille dans les 1000 petits travaux rustiques de la maison et du jardin. Relever les pans de murs de clôture qui entouraient la vigne et qui supportaient les terrasses. Déraciner de grosses pierres qui avaient roulé l'hiver du haut de ces murs sur les jeunes plants de vigne et qui empiétaient sur le peu de culture qu'on pouvait pratiquer entre les ceps. Apporter dans le cellier les grosses courges jaunes dont une seule était la charge d'un homme. Couper ensuite leurs filaments qui couvraient la terre de leurs larges feuilles et qui embarrassaient les pas dans leur réseau. Tracer entre chaque rangée de ceps, sous les treilles hautes, une petite rigole dans la terre sèche pour que l'eau de la pluie s'y rassemblât d'elle-même et les abreuvât plus longtemps. Creuser pour le même usage des espèces de puits en entonnoir au pied des figuiers et des citronniers. Telles étaient nos occupations matinales, jusqu'à l'heure où le soleil dardait d'aplomb sur le toit, sur le jardin, sur la cour, et nous forçait à chercher l'abri des treilles. La transparence et le reflet des feuilles de vigne y teignaient les ombres flottantes d'une couleur chaude et un peu dorée. Graziella alors entrait à la maison pour filer auprès de sa grand-mère, ou pour préparer le repas du milieu du jour. Quant au vieux pêcheur et à Beppo, ils passaient les journées entières au bord de la mer à rimer la bargue neuve, à y faire les perfectionnements que leur passion pour leur nouvelle propriété leur inspirait, et à essayer les filets à l'abri des écueils. Ils nous rapportaient toujours, pour le repas de midi, quelques crabes ou quelques anguilles de mer, aux écailles plus luisantes que le plomb fraîchement fondu. La mer les faisait frire dans l'huile des oliviers. La famille conservait cette huile, selon l'usage du pays, au fond d'un petit puits creusé dans le rocher tout près de la maison et fermé d'une grosse pierre où l'on avait scellé un anneau de fer. Quelques concombres frits de même et découpés en lanières dans la poêle, quelques coquillages frais, semblables à des moules, et qu'on appelle « frutti di mare », fruits de mer, composait pour nous ce frugal dîner, le principal et le plus succulent repas de la journée. Des raisins muscats aux longues grappes jaunes, cueillis le matin par Graziella, conservés sur leurs tiges et sous leurs feuilles et servis sur des corbeilles plates d'osier tressé, formaient le dessert. Une tige ou deux de fenouil vert et cru trempé dans le poivre, et dont l'odeur d'anis parfume les lèvres et relève le cœur, de tenait lieu de liqueurs et de café, selon l'usage des marins et des paysans de Naples. Après le dîner, nous allions chercher, mon ami et moi, quelques abris ombragés et frais au sommet de la falaise, en vue de la mer et de la côte de Bahia, et nous y passions à regarder, à rêver, à lire les heures brûlantes du jour jusque vers 4 ou 5 heures après-midi. Nous n'avions sauvé des flots que 3 volumes dépareillés, parce que cela ne se trouvait pas dans notre valise de marin quand nous la jetâmes à la mer. C'était un petit volume italien d'Ugo Foscolo, intitulé « Lettres de Jacopo Ortis », espèce de Werther, moitié politique, moitié romanesque, où la passion de la liberté de son pays se mêle dans le cœur d'un jeune Italien à sa passion pour une belle Vénitienne. Le double enthousiasme, nourri par ce double feu de l'amant et du citoyen, allume dans l'âme d'Ortis une fièvre dont l'accès trop fort pour un homme sensible et maladif produit enfin le suicide. Ce livre, copie littérale mais coloriée et lumineuse du Werther de Goethe, était alors entre les mains de tous les jeunes hommes qui nourrissaient comme nous dans leur âme ce double rêve de ceux qui sont dignes de rêver quelque chose de grand, l'amour et la liberté. La police de Bonaparte et de Murat proscrivaient en vain l'auteur et le livre. L'auteur avait pour asile le cœur de tous les patriotes italiens et de tous les libéraux de l'Europe. Le livre avait pour sanctuaire la poitrine des jeunes gens comme nous. Nous l'y cachions pour en aspirer les maximes. Des 2 autres volumes que nous avions sauvés, l'un était « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint-Pierre, ce manuel de l'amour naïf. Livre qui semble une page de l'enfance du monde, arrachée à l'histoire du cœur humain et conservée toute pure et toute trempée de larmes contagieuses pour les yeux de 16 ans. L'autre était un volume de Tacite, page tachée de débauche de honte et de sang, mais où la vertu stoïque prend le burin et l'apparente impassibilité de l'histoire pour inspirer à ceux qui la comprennent la haine de la tyrannie, la puissance des grands dévouements et la soif des généreuses morts. Ces 3 livres se trouvaient par hasard correspondre aux 3 sentiments qui faisaient de l'or, comme par pressentiment, vibrer nos jeunes âmes. L'amour, l'enthousiasme pour l'affranchissement de l'Italie et de la France, et enfin la passion pour l'action politique et pour le mouvement des grandes choses dont Tacite nous présentait l'image et pour lesquels il trempait nos âmes de bonheur dans le sang de son pinceau et dans le feu de la vertu antique. Nous lisions haut et tour à tour, tantôt admirant, tantôt pleurant, tantôt rêvant. Nous entrecoupions ces lectures de longs silences et de quelques exclamations échangées qui étaient pour nous le commentaire irréfléchi de nos impressions et que le vent emportait avec nos rêves. Nous nous placions nous-mêmes par la pensée dans quelques-unes de ces situations fictives ou réelles que le poète ou l'historien venait de raconter pour nous. Nous nous faisions un idéal d'amant ou de citoyen, de vie cachée ou de vie publique, de félicité ou de vertu. Nous nous plaisions à combiner ces grandes circonstances, ces merveilleux hasards des temps de révolution où les hommes les plus obscurs sont révélés à la foule par le génie et appelés, comme par leur nom, à combattre la tyrannie et à sauver les nations. Puis, victimes de l'instabilité et de l'ingratitude des peuples, condamnés à mourir sur l'échafaud en face du temps qui les méconnaît et de la postérité qui les venge. Il n'y avait pas de rôle, quelque héroïque qu'il fût, qui n'eût trouvé nos âmes au niveau des situations. Nous nous préparions à tout, et si la fortune un jour ne réalisait pas ces grandes épreuves où nous nous précipitions en idées, nous nous vengions d'avance en la méprisant. Nous avions en nous-mêmes cette consolation des âmes fortes, que si notre vie restait inutile, vulgaire et obscure, c'était la fortune qui nous manquerait, ce n'était pas nous qui aurions manqué à la fortune. Quand le soleil baissait, nous faisions de longues courses à travers l'île. Nous la traversions dans tous les sens. Nous allions à la ville acheter le pain ou les légumes qui manquaient au jardin d'Andrea. Quelquefois, nous rapportions un peu de tabac, cet opium du marin, qui l'anime en mer et qui le console en terre. Nous rentrions à la nuit tombante, les poches et les mains pleines de nos modestes munificences. La famille se rassemblait, le soir sur le toit qu'on appelle à Naples l'Astrico, pour attendre les heures du sommeil. Rien de si pittoresque dans les belles nuits de ce climat que la scène de l'Astrico au clair de la lune. À la campagne, la maison basse et carrée ressemble à un piédestal antique qui porte des groupes vivants et des statues animées. Tous les habitants de la maison y montent, s'y meuvent ou s'y assoient dans des attitudes diverses. La clarté de la lune ou les lueurs de la lampe projettent et dessinent ses profils sur le fond bleu du firmament. On y voit la vieille mère filer le père, fumer sa pipe de terre cuite à la tige de roseau, les jeunes garçons s'accouder sur le rebord, et chanter en longues notes traînantes ces airs marins ou champêtres, dont l'accent prolongé tout vibrant a quelque chose de la plaine du bois torturée par les vagues, ou de la vibration stridente de la cigale au soleil. Les jeunes filles enfin, avec leurs robes courtes, les pieds nus, leurs soubres vestes vertes et galonnées d'or ou de soie, et leurs longs cheveux noirs flottant sur leurs épaules, enveloppé d'un mouchoir noué sur la nuque à gros nœuds pour préserver leur chevelure de la poussière. Elles y dansent, souvent seules ou avec leurs sœurs. L'une tient une guitare, l'autre élève sur sa tête un tambour de basque entouré de sonnettes de cuivre. Ces deux instruments, l'un plaintif et léger, l'autre monotone et sourd, s'accordent merveilleusement pour rendre presque sans art les deux notes alternatives du cœur de l'homme, la tristesse et la joie. On les entend pendant les nuits d'été sur presque tous les toits des îles ou de la campagne de Naples, même sur les barques. Ce concert aérien qui poursuit l'oreille de site en site, depuis la mer jusqu'aux montagnes, ressemble au bourdonnement d'un insecte de plus que la chaleur fait naître et bourdonner sous ce beau soleil. Ce pauvre insecte, c'est l'homme qui chante quelques jours devant Dieu, sa jeunesse et ses amours, et puis qui se tait pour l'éternité. Je n'ai jamais pu entendre ces notes répandues dans l'air du haut des Astrikos sans m'arrêter, sans me sentir le cœur prêt, serré, éclaté de joie intérieure ou de mélancolie plus forte que moi. Telles étaient aussi les attitudes, les musiques et les voix sur la terrasse du toit d'Andrea. Graziella jouait de la guitare et Peppino, faisant rebondir ses doigts d'enfant sur le petit tambour qui avait servi autrefois à l'endormir dans son berceau, accompagnait sa sœur. Bien que les instruments fussent gais et que les attitudes fussent celles de la joie, les airs étaient tristes, les notes lentes et rares. Elles allaient profondément pincer les fibres endormies du cœur. Il en est ainsi de la musique partout où elle n'est pas un vain jeu de l'oreille, mais un gémissement harmonieux des passions qui sort de l'âme par la voix. Tous ces accents sont des soupirs, toutes ces notes roulent des pleurs avec le son. On ne peut jamais frapper un peu fort sur le cœur de l'homme sans qu'il en sorte des larmes, tant la nature est pleine au fond de tristesse, et tant ce qui la remue en fait monter de l'huile à nos lèvres et de nuages à nos yeux. Même quand la jeune fille, sollicitée par nous, se levait modestement pour danser la tarentelle au son du tambourin frappé par son frère, et qu'emportée par le mouvement tourbillonnant de cette danse nationale, elle tournoyait sur elle-même, les bras gracieusement élevés, imitant avec ses doigts le claquement des castagnettes et précipitant les pas de ses pieds nus comme des gouttes de pluie sur la terrasse. Oui, même alors, il y avait dans l'air, dans les attitudes, dans la frénésie même de ce délire en action, quelque chose de sérieux et de triste, comme si toute joie n'eût été qu'une démence passagère, et comme si, pour saisir un éclair de bonheur, la jeunesse et la beauté même avaient besoin de s'étourdir jusqu'au vertige et de s'enivrer de mouvement jusqu'à la folie. Plus souvent, nous nous entretenions gravement avec nos hôtes. Nous leur faisions raconter leur vie, leurs traditions ou leurs souvenirs de famille. Chaque famille est une histoire et même un poème pour qui sait la feuilleter. Celle-ci avait aussi sa noblesse, sa richesse, son prestige dans le lointain. L'aïeul d'Andrea était un négociant grec de l'île d'Égine. Persécuté pour sa religion par le pacha d'Athènes, il avait embarqué une nuit sa femme, ses filles, ses fils, sa fortune, dans un des navires qu'il possédait pour le commerce. Il s'était réfugié à Procida, où il avait des correspondants, et où la population était grecque comme lui. Il y avait acheté de grands biens, dont il ne restait plus de vestiges que la petite métairie où nous étions, et le nom des ancêtres gravé sur quelques tombeaux dans le cimetière de la ville. Les filles étaient mortes, religieuses, dans le monastère de l'île. Les fils avaient perdu toute la fortune dans les tempêtes qui avaient englouti leur navire. La famille était tombée en décadence. Elle avait échangé jusqu'à son beau nom grec contre un nom obscur de pêcheur de Procida. Quand une maison s'écroule, on finit par en balayer jusqu'à la dernière pierre, nous disait Andrea. De tout ce que mon aïeul possédait sous le ciel, il ne reste rien que mes deux rames, la barque que vous m'avez rendue, cette cabane qui ne peut pas nourrir ses maîtres et la grâce de Dieu. La mère et la jeune fille nous demandaient de leur dire à notre tour qui nous étions, où était notre pays, que faisaient nos parents, si nous avions notre père, notre mère, des frères, des sœurs, une maison, des figuiers, des vignes. Pourquoi nous avions quitté tout cela si jeune, pour venir ramer, lire, écrire, rêver au soleil et coucher sur la terre dans le golfe de Naples. Nous avions beau dire, nous ne pouvions jamais leur faire comprendre que c'était pour regarder le ciel et la mer, pour évaporer notre âme au soleil, pour sentir fermenter en nous notre jeunesse et pour recueillir des impressions, des sentiments, des idées que nous écririons peut-être ensuite en vers, comme ce qu'ils voyaient écrit dans nos livres ou comme ce que les improvisateurs de Naples récitaient le dimanche soir aux marins, sur le môle ou à la Margellina. « Mais vous voulez vous moquer de moi ?» nous disait Graziella en éclatant de rire. « Vous, des poètes ? Mais vous n'avez pas les cheveux hérissés et les yeux hagards de ce qu'on appelle de ce nom sur les quais de la marine. Vous, les poètes, et vous ne savez même pas pincer une note sur la guitare. Avec quoi donc accompagnerez-vous les chansons que vous ferez ?» Puis elle secouait la tête en faisant la moue avec ses lèvres et en s'impatientant de ce que nous ne voulions pas dire la vérité. Quelquefois un vilain soupçon traversait son âme et jetait un doute et une ombre de crainte dans son regard. Mais cela ne durait pas. Nous l'entendions dire tout bas à sa grand-mère. « Non, cela n'est pas possible. Ce ne sont pas des réfugiés chassés de leur pays pour une mauvaise action. Ils sont trop jeunes et trop bon pour connaître le mal. Nous nous amusions alors à lui faire le récit de quelques forfaits bien sinistres dont nous nous déclarions être les auteurs. Le contraste de nos fronts calmes et limpides, de nos yeux sereins, de nos lèvres souriantes et de nos cœurs ouverts, avec les crimes fantastiques que nous supposions avoir commis, la faisait rire aux éclats ainsi que son frère, et dissipait vite toute possibilité de défiance. Graziella nous demandait souvent qu'est-ce que nous lisions donc tout le jour dans nos livres. Elle croyait que c'était des prières, car elle n'avait jamais vu de livre qu'à l'église dans la main des fidèles qui savaient lire et qui suivaient les paroles saintes du prêtre. Elle nous croyait très pieux puisque nous passions des journées entières à balbutier des paroles mystérieuses. Seulement elle s'étonnait que nous ne fissions pas prêtre ou ermite dans un séminaire de Naples ou dans quelque monastère des îles. Pour la détromper, nous essayâmes de lire deux ou trois fois, en les traduisant en langue vulgaire du pays, des passages de Foscolo et quelques beaux fragments de notre Tacite. Nous pensions que ces soupirs patriotiques de l'exilé italien et ces grandes tragédies de Rome impériale feraient une forte impression sur notre naïf auditoire, car le peuple a de la patrie dans les instincts, de l'héroïsme dans le sentiment et du drame dans le coup d'œil. Ce qu'il retient, ce sont surtout les grandes chutes et les belles morts. Mais nous nous aperçûmes vite que ces déclamations et ces scènes si puissantes sur nous n'avaient point d'effet sur ces âmes simples. Le sentiment de la liberté politique, cette aspiration des hommes de loisirs, ne descend pas si bas dans le peuple. Ces pauvres pécheurs ne comprenaient pas pourquoi Ortis se désespérait et se tuait, puisqu'il pouvait jouir de toutes les vraies voluptés de la vie, se promener sans rien faire, voir le soleil, aimer sa maîtresse et prier Dieu sur les rives vertes et grasses de la Brenta. Mais pourquoi se tourmenter ainsi, disait-il, pour des idées qui ne pénètrent pas jusqu'au cœur? Que lui importe que ce soit les Autrichiens ou les Français qui règnent à Milan? C'est un fou de se faire tant de chagrin pour de telles choses. Et il n'écoutait plus. Quant à Tacite, il l'entendait moins encore. L'Empire ou la République, ces hommes qui s'entretuaient, les uns pour régner, les autres pour ne pas survivre à la servitude, ces crimes pour le trône, ses vertus pour la gloire, ses morts pour la postérité, les laissaient froids. Ces orages de l'histoire éclataient trop au-dessus de leur tête pour qu'ils en fussent affectés. C'était pour eux comme des tonnerres hors de portée sur la montagne, qu'on laisse rouler sans s'en inquiéter, parce qu'ils ne tombent que sur les cimes et qu'ils n'ébranlent pas la voile du pêcheur ni la maison du métayer. Tacite n'est populaire que pour les politiques ou pour les philosophes. C'est le Platon de l'histoire. Sa sensibilité est trop raffinée pour le vulgaire. Pour le comprendre, il faut avoir vécu dans les tumultes de la place publique ou dans les mystérieuses intrigues des palais. Ôter la liberté, l'ambition et la gloire à ces scènes, qu'y reste-t-il ? Ce sont les trois grands acteurs de ces drames. Or, ces trois passions sont inconnues au peuple, parce que ce sont des passions de l'esprit et qu'il n'a que les passions du cœur. Nous nous en aperçûmes à la froideur et à l'étonnement que ces fragments répandaient autour de nous. Nous essayâmes alors un soir de leur lire Paul et Virginie. Ce fut moi qui le traduisis en lisant, parce que j'avais tant l'habitude de le lire que je le savais pour ainsi dire par cœur. Familiarisé par un plus long séjour en Italie avec la langue, les expressions ne me coûtaient rien à trouver et coulaient de mes lèvres comme une langue maternelle. À peine cette lecture eut-elle commencé que les physionomies de notre petit auditoire changèrent et prirent une expression d'attention et de recueillement, indice certain de l'émotion du cœur. Nous avions rencontré la note qui vibre à l'unisson dans l'âme de tous les hommes, de tous les âges et de toutes les conditions, la note sensible, la note universelle, celle qui renferme dans un seul son l'éternité et la vérité de l'art, la nature, l'amour et Dieu. Je n'avais encore lu que quelques pages et déjà, vieillard, jeune fille, enfant, tout avait changé d'attitude. Le pêcheur, le coude sur son genou et l'oreille penchée de mon côté, oubliait d'aspirer la fumée de sa pipe. La vieille grand-mère, assise en face de moi, tenait ses deux mains jointes sous son menton, avec le geste des pauvres femmes qui écoutent la parole de Dieu, accroupies sur le pavé des temples. Beppo était descendu du mur de la terrasse où il était assis tout à l'heure. Il avait placé sans bruit sa guitare sur le plancher. Il posait sa main à plat sur le manche, de peur que le vent ne fît résonner ses cordes. Graziella, qui se tenait ordinairement un peu loin, se rapprochait insensiblement de moi, comme si elle eût été fascinée par une puissance d'attraction caché dans le livre. Adossé au mur de la terrasse, au pied duquel j'étais étendu moi-même, elle se rapprochait de plus en plus de mon côté, appuyée sur sa main gauche, qui portait à terre dans l'attitude du gladiateur blessé. Elle regardait avec de grands yeux bien ouverts, tantôt le livre, tantôt mes lèvres, d'où coulait le récit. Tantôt le vide entre mes lèvres et le livre, comme si elle eût cherché du regard l'invisible esprit qui me l'interprétait. J'entendais son souffle inégal s'interrompre ou se précipiter suivant les palpitations du drame, comme l'haleine essoufflée de quelqu'un qui gravite une montagne et qui se repose pour respirer de temps en temps. Avant que je fusse arrivé au milieu de l'histoire, la pauvre enfant avait oublié sa réserve un peu sauvage avec moi. Je sentais la chaleur de sa respiration sur mes mains. Ses cheveux frissonnaient sur mon front. Deux ou trois larmes brûlantes tombaient de ses joues, tachaient les pages tout près de mes doigts. Excepté ma voix lente et monotone, qui traduisait littéralement à cette famille de pêcheurs ce poème du cœur, on n'entendait aucun bruit que les coups sourds et éloignés de la mer qui battaient la côte là-bas, sous nos pieds. Ce bruit même était en harmonie avec la lecture. C'était comme le dénouement pressenti de l'histoire qui grondait d'avance dans l'air au commencement et pendant le cours du récit. Plus ce récit se déroulait, plus il semblait attacher nos simples auditeurs. Quand j'hésitais par hasard à trouver l'expression juste pour rendre le mot français, Graziella, qui depuis quelque temps tenait la lampe abritée contre le vent par son tablier, l'approchait tout près des pages et brûlait presque le livre dans son impatience, comme si elle eût pensé que la lumière du feu allait faire jaillir le sens intellectuel à mes yeux et éclore plus vite les paroles sur mes lèvres. Je repoussai en souriant la lampe de la main, sans détourner mon regard de la page, et je sentais mes doigts tout chauds de ses pleurs. Quand je fus arrivé au moment où Virginie, rappelée en France par sa tante, sans, pour ainsi dire, le déchirement de son être en deux, et s'efforce de consoler Paul sous les bananiers en lui parlant de retour, en lui montrant la mer qui va l'emporter, je fermai le volume et je remis la lecture au lendemain. Ce fut un coup au cœur de ces pauvres gens. Graziella se mit à genoux devant moi, puis devant mon ami pour nous supplier d'achever l'histoire. Mais ce fut en vain, nous voulions prolonger l'intérêt pour elle et le charme de l'épreuve pour nous. Elle arracha alors le livre de mes mains. Elle l'ouvrit comme si elle eût pu, à force de volonté, en comprendre les caractères. Elle lui parla, elle l'embrassa. Elle le remit respectueusement sur mes genoux, en joignant les mains et en me regardant en suppliante. Sa physionomie, si sereine et si souriante dans le calme, mais un peu austère, avait pris tout à coup, dans la passion et dans l'attendrissement sympathique de ce récit, quelque chose de l'animation, du désordre et du pathétique du drame. On eût dit qu'une révolution subite avait changé ce beau marbre en chair et en larmes. La jeune fille sentait son âme jusque-là dormante se révéler à elle dans l'âme de Virginie. Elle semblait avoir mûri de 6 ans dans cette demi-heure. Les teintes orageuses de la passion marbraient son front, le blanc azuré de ses yeux et de ses joues. C'était comme une eau calme et abritée, où le soleil, le vent et l'ombre seraient venus à lutter tout à coup pour la première fois. Nous ne pouvions nous lasser de la regarder dans cette attitude. Elle, qui jusque-là ne nous avait inspiré que de l'enjouement, nous inspira presque du respect. Mais ce fut en vain qu'elle nous conjura de continuer. Nous ne voulûmes pas user notre puissance en une seule fois. Et ces belles larmes nous plaisaient trop à faire couler pour en tarir la source en un jour. Elle se retira en boudant et éteignit la lampe avec colère. Le lendemain, quand je la revis sous les treilles et que je voulus lui parler, elle se détourna comme quelqu'un qui cache ses larmes et refusa de me répondre. On voyait à ses yeux, bordés d'un léger cercle noir, à la pâleur plus mate de ses joues et à une légère et gracieuse dépression des coins de sa bouche, qu'elle n'avait pas dormi, et que son cœur était encore gros des chagrins imaginaires de la veillée. Merveilleuse puissance d'un livre qui agit sur le cœur d'une enfant illettrée et d'une famille ignorante, avec toute la force d'une réalité et dont la lecture est un événement dans la vie du cœur. C'est que de même que je traduisais le poème avait traduit la nature, et que ces événements si simples, le berceau de ces deux enfants au pied de deux pauvres mères, leurs amours innocents, leur séparation cruelle, ce retour trompé par la mort, ce naufrage et ces deux tombeaux, n'enfermant qu'un seul cœur, sous les bananiers, sont des choses que tout le monde sent et comprend, depuis le palais jusqu'à la cabane du pêcheur. Les poètes cherchent le génie bien loin, tandis qu'il est dans le cœur et quelques notes bien simples, touchées pieusement et par hasard sur cet instrument monté par Dieu lui-même, suffisent pour faire pleurer tout un siècle et pour devenir aussi populaire que l'amour et aussi sympathique que le sentiment. Le sublime lasse, le beau trompe, le pathétique seul est infaillible dans l'art. Celui qui sait attendrir, sait tout. Il y a plus de génie dans une larme que dans tous les musées et dans toutes les bibliothèques de l'univers. L'homme est comme l'arbre qu'on secoue pour en faire tomber ses fruits. On n'ébranle jamais l'homme sans qu'il en tombe des pleurs. Tout le jour, la maison fut triste, comme s'il était arrivé un événement douloureux dans l'humble famille. On se réunit pour prendre les repas sans presque se parler. On se sépara, on se retrouva sans sourire. On voyait que Graziella n'avait point le cœur à ce qu'elle faisait en s'occupant dans le jardin ou sur le toit. Elle regardait souvent si le soleil baissait, et de cette journée, il était visible qu'elle n'attendait que le soir. Quand le soir fut venu et que nous eûmes repris tous nos places ordinaires sur l'astricot, je rouvris le livre et j'achevai la lecture au milieu des sanglots. Père, mère, enfant, mon ami, moi-même, tous participaient à l'émotion générale. Le son morne et grave de ma voix se pliait à mon insu, à la tristesse des aventures et à la gravité des paroles. Elle semblait, à la fin du récit, venir de loin et tomber de haut dans l'âme, avec l'accent creux d'une poitrine vide, où le cœur ne bat plus et qui ne participe plus aux choses de la terre que par la tristesse, la religion et le souvenir. Il nous fut impossible de prononcer de vraies paroles après ce récit. Graziella resta immobile et sans geste, dans l'attitude où elle était en écoutant, comme si elle écoutait encore. Le silence, cet abaudissement des impressions durables et vraies, ne fut interrompu par personne. Chacun respectait dans les autres les pensées qu'il sentait en soi-même. La lampe, presque consumée, s'éteignit insensiblement sans qu'aucun de nous y portât la main pour la ranimer. La famille se leva et se retira furtivement. Nous restâmes seuls, mon ami et moi, confondus de la toute-puissance de la vérité, de la simplicité et du sentiment sur tous les hommes, sur tous les âges et sur tous les pays. Peut-être une autre émotion remet-elle déjà aussi le fond de notre cœur. La ravissante image de Graziella, transfigurée par ses larmes, initiée à la douleur par l'amour, flottait dans nos rêves avec la céleste création de Virginie. Ses deux noms et ses deux enfants, confondus dans des apparitions errantes, enchantaient ou attristèrent notre sommeil agité jusqu'au matin. Le soir de ce jour et les deux jours qui suivirent, il fallut relire deux fois à la jeune fille le même récit. Nous l'aurions relu 100 fois de suite qu'elle ne se serait pas lassée de le demander encore. C'est le caractère des imaginations du midi, rêveuses et profondes, de ne pas chercher la variété dans la poésie ou dans la musique. La musique et la poésie ne sont pour ainsi dire que les thèmes sur lesquels chacun brode ses propres sentiments. On s'y nourrit sans satiété, comme le peuple, du même récit et du même air pendant des siècles. La nature elle-même, cette musique et cette poésie suprême, qu'a-t-elle autre chose que 2 ou 3 paroles et 2 ou 3 notes, toujours les mêmes, avec lesquelles elle attriste ou enchante les hommes, depuis le premier soupir jusqu'au dernier? Au lever du soleil, le 9e jour, le vent de l'équinoxe tomba enfin, et en peu d'heures, la mer redevint une mer d'été. Les montagnes mêmes de la côte de Naples, ainsi que les eaux et le ciel, semblaient nager dans un fluide plus limpide et plus bleu que pendant les mois des grandes chaleurs, comme si la mer, le firmament et les montagnes eussent déjà senti ce premier frisson de l'hiver qui cristallise l'air et le fait étinceler comme l'eau figée des glaciers. Les feuilles jaunies de la vigne et les feuilles brunies des figuiers commençaient à tomber et à joncher la cour. Les raisins étaient cueillis, les figues séchées sur l'astrico au soleil étaient emballées dans des paniers grossiers d'herbes marines tressées en natte par les femmes. La barque était pressée d'essayer la mer, et le vieux pêcheur de ramener sa famille à la Margellina. On nettoya la maison et le toit, on couvrit la source d'une grosse pierre pour que les feuilles séchées et les eaux de l'hiver n'en corrompissent pas le bassin. On épuisa d'huile le petit puits creusé dans la roche, on mit l'huile dans des jarres. Les enfants les descendirent à la mer en passant de petits bâtons dans les anses. On fit un paquet entouré de cordes du matelas et des couvertures du lit. On alluma une dernière fois la lampe sous l'image abandonnée du foyer. on fit une dernière prière devant la Madone pour lui recommander la maison, le figuier, la vigne que l'on quittait ainsi pour plusieurs mois. Puis l'on ferma la porte. On cacha la clé au rond d'une fente de rocher recouverte de lierre pour que le pêcheur, s'il revenait pendant l'hiver, sût où la trouver et qu'il pût visiter son toit. Nous descendîmes ensuite à la mer, aidant la pauvre famille à emporter et en embarquer l'huile, les pains et les fruits.